Alors, donc nous allons parler de la question du rapport aux familles et singulièrement de la question des loyautés. La question des loyautés, la loyauté, donc ça fait partie, donc je vous ai dit que je me suis formé comme thérapeute de couple, etc., dans le cadre de la thérapie systémique, et ça fait ce mot de loyauté revêt une définition particulière à l'intérieur de la systémie ou des thérapies systémiques. La loyauté, la définition est suivante, un peu comme une introduction, c'est l'engagement que nous prenons de venir en aide à ceux qui nous ont aidés. L'engagement que nous prenons de venir en aide à ceux qui nous ont aidés. D'aimer ceux qui nous ont aimés. Quand l'enfant naît, il y a une sorte de dette, parce personne n'a mérité la vie, on la reçoit gratuitement, il y a de l'amour qu'on reçoit gratuitement, etc. Et comment l'enfant va vouloir redonner ce qu'il a reçu, si ce n'est en répondant aux attentes des personnes qui lui sont venues en aide, et singulièrement les parents. Donc la loyauté, c'est bien ça, c'est répondre aux attentes de celui qui m'a donné gratuitement, envers qui j'ai la dette, comme dit saint Paul, de la charité fraternelle, de l'amour mutuel. Voilà, on m'a donné la vie, on a pris soin de moi, etc. Je veux, au fond, répondre à cet amour en étant loyal et en répondant aux attentes de l'autre. Il pense ainsi rembourser sa dette, d'une certaine manière, en venant en aide à ses parents, à sa famille, en faisant plaisir à ses parents, ses frères et sœurs, ses amis. Et de fait, la loyauté construit le lien générationnel, par exemple, tout à fait. Il n'y aurait pas de lien, même en général, dans le monde, s'il n'y avait pas de loyauté, de redonner ce qu'on a reçu. Sans loyauté, notre monde ne serait plus un monde social. Il n'y a plus de réciprocité dans nos liens. Mais en même temps, donc, nos loyautés, c'est-à-dire la manière que nous avons de redonner aux personnes qui nous ont fait du bien, nos loyautés définissent qui nous sommes et nous invitent à faire des choix. Et chaque fois que nous plaçons les intérêts de nos proches avant ceux des autres, nous redéfinissons notre famille. Par exemple, la question du temps. Quel temps vous pouvez donner aux uns et aux autres dans votre propre vie et à travers cette question du temps, comment vous pouvez redonner aussi, vous définissez votre famille en privilégiant telle personne par rapport à telle autre, sachant qu'on ne peut pas être loyal de la même manière à deux personnes différentes. Il y aura un plus ou il y aura un moins. Parce que le temps ou la manière ou l'expression de cette loyauté, de ce retour que l'on veut exprimer, sera forcément différent. Nous redéfinissons qui nous sommes, nos priorités. Les liens s'appliquent à notre famille, à nos amis, à nos proches, à des personnes qui comptent sur nous et en qui nous avons confiance. Voilà. On veut répondre à leurs demandes, à leurs attentes, et à la fois on ne peut pas répondre à toutes les attentes, à la fois il faut prioriser certaines attentes, laisser tomber d'autres attentes de côté, etc. Ça c'est qu'est-ce qu'une loyauté, c'est un peu l'introduction. Ensuite, quelles sont les formes de loyauté? Il y a plusieurs formes de loyauté. Il peut y avoir une loyauté à la parole reçue, hein, comme cette vieille maman qui dit à son fils: je compte sur toi quand je serai morte pour que la famille s'entende bien. Oui, ça. Et donc, pour le fils, s'il n'a pas une formation, une certaine acuité, etc., il prendra ça comme parole d'évangile et redonner à sa manière, à sa mère, les soins qu'il a reçus, ce sera être fidèle à cette parole de cette vieille mère qui lui demande que la famille s'entende bien, comme si ça dépendait que de soi seul, le fait que la famille s'entende bien. Forcément pas. Ou alors il peut y avoir une loyauté, une autre forme de loyauté au patrimoine reçu. D'une certaine manière, une loyauté à la terre. Le cas des maisons de famille, le cas des entreprises familiales, des exploitations agricoles. Un père dit à son fils, avec ta mère, nous avons décidé que ce serait toi qui reprendrais la maison de famille. Voilà. On se sent une charge parfois de faire plaisir à ses parents, et les parents voyant ça comme voir une faveur qu'ils nous font de nous, et on ne se sent pas, où est-ce qu'est notre liberté de dire oui ou non, à répondre aux attentes des parents? Est-ce qu'on s'autorise à être parfois déloyal? D'autant plus vrai que quand on est en couple, chacun a son propre système de loyauté. Chacun arrive avec, voilà, moi j'ai mes parents, ma famille, etc. Toi, tu as les tiens, etc., ta famille. Il y a des attentes des deux côtés. On a des attentes aussi l'un envers l'autre, à l'intérieur du couple. Qu'est-ce qu'on va privilégier? Qu'est-ce qu'on va laisser tomber? De quelle manière on va pouvoir... Il va falloir un peu argumenter et puis trier. Donc la question du patrimoine reçu, je trouve que c'est une question des entreprises familiales, de l'exploitation agricole. Est-ce que je le fais par devoir ou est-ce que je me sens libre par rapport peut-être une injonction parentale de reprendre telle exploitation, de reprendre, etc. Ou est-ce qu'au contraire c'est un vrai bonheur? Aussi loyauté par rapport à des rituels familiaux, surtout par exemple au moment de Noël ou pendant les vacances. Interrogez vos rituels familiaux. Je me souviens comme ça d'un couple où lui vivait, sa maman était veuve, et c'est particulièrement vrai quand il y a un des deux parents qui est en difficulté, soit qui est séparé, soit qui est veuf, soit qui est malade, soit etc., etc. Du coup, on se sent parfois le devoir de rendre davantage, et du coup, tous les dimanches midi, c'était le déjeuner avec maman. Ça, c'est rituels familiaux. Vous voyez, on a des rituels. Alors, autour de Noël, il y a des rituels familiaux. C'est pratiquement inscrit dans notre culture, en tout cas en France. Mais posez-vous la question, est-ce que ce rituel familial, est-ce qu'il est pertinent? Comment se vit ce rituel familial quand on a des parents séparés, par exemple? Qu'est-ce qui s'est mis en place pendant les vacances? Du coup, oui, il faut passer forcément une semaine ensemble ou voilà, je rencontrais des personnes qui avaient des exigences des parents, de faire face à des exigences des parents. Mais c'est nous. Voilà, mais on me rappelle un couple, Jean-Jean, qui dit, voilà, toutes les années, on passe 3 jours ensemble et c'est les parents qui payent tout. Mais il faut être tout ensemble, il faut tout faire ensemble. Mais c'est intenable, un truc comme ça, forcément. Et alors, ils avaient, eux, le malheur d'être. Partis faire une balade en amoureux, etc. Mais se sont fait harceler de textos, exploser quand ils sont revenus au domicile, etc. C'est on ne vous paye pas les vacances pour que vous soyez que tous les deux. Mais un truc comme ça, il faut désobéir. Il faut être déloyal à ce rituel familial. Parce qu'il y a des loyautés qui sont toxiques. Il y a des demandes de la part des parents, de même aussi des demandes parfois de la part des enfants envers les parents. Surtout quand les enfants commencent à avoir eux leurs propres enfants et donc les parents deviennent grands-parents, il peut y avoir des demandes de la part des enfants de garde, de ceci, de cela, qui sont excessives. Et ça veut dire forcément revisiter ses loyautés, ça veut dire revisiter sa culpabilité. Ça, vous ne pouvez pas passer outre ça, couper à ça. De revisiter votre culpabilité, de parfois décevoir l'attente de votre propre famille sur vous. D'autant plus si vous êtes en couple. Parce que vous avez l'autre aussi qui a son système et qui veut redonner à celui qui lui a donné, il veut aussi répondre aux attentes de sa propre famille, de ses amis, etc. Donc c'est intéressant d'interroger vos rituels familiaux, les rituels amicaux aussi. Je pense beaucoup à tout ce qui est les groupes WhatsApp, tout, etc. Est-ce que je suis assez libre du coup, les notifications tombent comme ça toutes les minutes. Bon, est-ce que je suis assez libre par rapport à ce groupe-là? Et je sens qu'il y a une forme de pression. Ça peut être aussi dans une entreprise, une forme de loyauté. Une entreprise ou une institution qui est très corporate, voilà, où il y a un esprit de corps qui est très fort, hein, et on exige que l'autre redonne au-delà de ce qui est inscrit dans le contrat. Ce n'est pas dit explicitement, mais ça se diffuse dans l'entreprise, qu'il est de bon ton d'eux. Ça, c'est une loyauté, vous voyez, par exemple. Ou alors, redonner à un parent défunt de sa famille, on se sent l'obligation de s'occuper du parent vivant, hein, de redonner aux ancêtres, hein, d'être fidèle à la mémoire des ancêtres. Il y a des familles où on est beaucoup dans la transmission, par exemple. Et donc, cette question de transmission et cette question des ancêtres, voilà, qui s'incarne parfois par des maisons de famille, qui s'incarne par un certain nombre d'habitudes, etc., etc. Et est-ce que, du coup, moi, je me sens libre par rapport à ça? La question de la pratique religieuse. La loyauté dit loi, qui dit loyauté dit loi, et commandement nouveau ou ancien. Et c'est clair que la question de la religion a à voir avec la loyauté. Est-ce que je suis pratiquant? Est-ce que je veux me marier à l'église pour faire plaisir, pour répondre aux attentes d'eux, ou et donc plus par devoir ou par amour? Est-ce que je me sens libre par rapport à cette attente peut-être parentale ou cette attente des amis ou des frères et sœurs d'un mariage à l'église? Il peut y avoir donc différentes sortes de loyautés, je vous l'ai dit, et ces loyautés, elles peuvent être de nature, soit des loyautés qui nous construisent, soit des loyautés toxiques. Des loyautés qui nous construisent, ce sont celles qui nous mettent en relation avec les autres. Notre capacité à vivre les loyautés nous construit et nous fait grandir en humanité dans une profonde liberté. Une loyauté est bonne quand elle n'active pas une culpabilité. Mais s'il y a une demande d'un des parents, par exemple, de reprendre l'exploitation familiale, de faire ceci, de suivre tel rituel familial, de venir déjeuner tous les dimanches, etc., et que si tu n'y vas pas, tu te sens coupable, dis-toi que tu es face peut-être à une loyauté toxique. Donc il y a des loyautés qui construisent, qui mettent en lien. C'est ça. La loyauté est construite quand elle met en lien avec d'autres, pas quand elle ferme des liens. En revanche, il y a des loyautés toxiques. Il y en a plusieurs types. Premièrement, les loyautés clivantes. C'est lui ou moi. C'est-à-dire, on te demande de renier l'autre. Ça se vit malheureusement dans les divorces, où on met l'enfant dans une situation impossible. On lui demande de renier un de ses parents pour plaire à l'autre parent. Ça, c'est une loyauté clivante. C'est-à-dire, si tu es avec moi, eh ben, tu ne peux pas être avec lui. Et si tu es avec lui, tu ne peux pas être avec moi. Des relations comme ça, c'est clairement des relations toxiques. Et sont beaucoup plus difficiles quand ça se vit dans la famille. On vous demande de choisir entre les personnes. On vous demande de renier l'autre pour prouver votre attachement. Ça, c'est toxique. Et à ça, vous n'avez pas à répondre positivement, parce que ça vous ferme des portes. Choisissez toujours de façon générale la relation qui vous ouvre le plus aux autres, comme un critère général. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Parce qu'on ne peut pas être fidèle à toutes les relations et l'état d'amis que vous ne reverrez plus dans 10 ans, etc. Qu'est-ce que vous choisissez? On a à choisir entre les relations. Choisissez la relation qui vous ouvre le plus aux autres. Donc, dans les loyautés toxiques et les loyautés clivantes, il y a les loyautés qu'on appelle les doubles liens ou l'injonction paradoxale. Double lien ou double bind, si vous préférez l'anglais. Ou injonction paradoxale. C'est-à-dire, par exemple, on t'offre Ta maman t'offre une cravate verte et une cravate jaune. Tu mets la verte, ah, t'aimes pas le jaune. Tu mets la jaune, ah, t'aimes pas le vert. C'est une personne qu'on ne peut jamais satisfaire. Parce qu'il y a double langage. Si vous êtes dans une loyauté, ça c'est vraiment toxique et destructeur. C'est une personne que vous, qui n'est jamais satisfaite, qui se positionne toujours comme victime, et face à laquelle on ne peut jamais donner satisfaction. Et évidemment, si vous êtes dans une relation comme ça ne peut pas ne pas avoir des relations et des implications sur votre couple. Parce que si vous êtes, ou si vous n'avez pas revisité votre culpabilité, et que vous vous dites, là, je suis face à une loyauté toxique de laquelle je dois m'éloigner, je dois désobéir, je dois quitte ton père et ta mère, hein, je dois quitter cette relation-là, parce qu'elle n'est pas, elle ne me fait pas du bien, et je ne fais pas non plus du bien à l'autre en allant dans ce sens-là, eh bien forcément, si vous ne prenez pas conscience, vous devez abandonner cette relation, ben c'est peut-être l'autre avec qui vous êtes en couple qui va vous abandonner pour le coup. Parce que l'autre prendra conscience que vous êtes un peu à répondre à des injonctions, mais qui ne sont pas en place. Uniquement parce qu'il y a une culpabilité. Uniquement parce que l'autre vous met dans une situation impossible de double langage. Tu choisis à droite, ah maintenant je voulais à gauche. Tu vas à gauche, je vais à droite. Mais ça c'est très fréquent. Donc ça, les injonctions, les doubles liens, injonctions paradoxales. Ou alors, par exemple, quelqu'un qui dit « Sois naturel ». Alors, tu essaies de naturel, tu dis « Non, pas comme ça ». Non, mais au secours. Ça, c'est typique de la manipulation. Les injonctions paradoxales, ça beaucoup, on voit ça chez les manipulateurs. Une des autres loyautés toxiques, c'est ce qu'on appelle la parentification. La parentification, c'est-à-dire on devient parent de son parent. Parce que le parent a été en fragilité, dans une situation de détresse, où il me semble qu'il est dans une situation de détresse, où j'ai été mis parent de mes frères et sœurs. Je me rappelle, par exemple, j'accompagne un couple, elle est l'aînée. C'est vrai que la question des loyautés retombe beaucoup sur les filles. Pas que, mais beaucoup sur les filles. Et elle, étant aînée, sa maman au travail, etc. C'est elle qui sortait, elle était parente de ses frères et sœurs. Même à un point, ses frères et sœurs l'appelaient maman. Je veux dire, elle a été parentifiée. Elle a été mise dans une situation de parent. Elle n'a pas été protégée pour garder l'insouciance de l'enfant. Ou parent de son parent. C'est-à-dire que la personne, l'enfant, sent que le parent est en fragilité. J'accompagne un couple, par exemple. Bon. Elle a un papa qui visiblement est très fragile et qui, bon, les parents sont séparés, on comprend pourquoi, parce que tous les 4 matins, l'huissier commençait à tomber, à taper, à frapper à la maison, etc., parce que lui n'avait pas payé les factures, se mettait dans des plans complètement loose, et donc au niveau financier, c'était la galère la plus totale. Et la femme, on comprend, elle a pris ses enfants sous le bras, elle est partie, elle dit non, je ne peux pas vivre comme ça, je veux construire ma vie et une vie stable, voilà, au niveau financier, c'est pas la richesse que je cherche, mais moi, une stabilité, pas voir les huissiers toutes les 4 matins, quoi. Donc, bon, et elle me dit, alors là, ça, je suis prêt à donner la moitié de mon salaire pour que mon père ne coule pas. Oh. Je lui dis, non, tu peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Elle se sentait parent de son père. J'ai dit, non, tu ne peux pas dire ça dans une vie de couple. Comment tu vas monnayer ça, c'est le cas de le dire, avec une vie de couple? Donner la moitié de ton salaire. Oui, ça, c'est des loyautés. C'est l'enfant qui a perçu qu'il était responsable de son parent. Parce que le parent était, d'une manière ou d'une autre, dans une situation de fragilité. Oui.
Comment vous faites pour les parents en fin de vie à ce moment-là?
Alors, ils ne sont pas en fin de vie, bon, sauf s'ils sont malades, mais généralement, quand ils sont en fin de vie, vous avez 50 ans. Et donc, vous avez 25 ans, 20 ans de vie matrimoniale derrière. C'est pas pareil. Pas à l'âge où vous êtes, vous, là. Ah, pas à l'étape de du coup, quand moi, maman a 87 ans, par exemple, mais moi j'ai 60 ans. Voilà. Alors, il se peut qu'un des parents, par exemple, non, mais ça peut arriver, par exemple, dans le cas d'un parent du veuvage, qui peut arriver très jeune, j'ai accompagné des couples, où les deux, les parents des deux fiancés, étaient veufs. C'était les papas qui étaient décédés. Bon, du coup, c'est un sujet absolument à aborder. Oui, ça peut arriver. C'est moi. Quand à 30 ans, le parent a plutôt la cinquantaine, est encore bon. Ça peut, mais c'est quand même. Alors du coup, un cancer, une maladie, ça peut être bon. Bah, du coup, ça demande. Il est clair que quelque chose comme ça met votre couple en tension. Ça vous met personnellement en tension et ça met votre couple en tension. Et donc du coup, une chose arrive, vraiment, est-ce que vous êtes seul? Là aussi, si vous êtes seul. Dans votre fratrie, vous êtes fils unique, fille unique, c'est pas pareil que s'il y a une fratrie autour de vous. S'il y a une fratrie, me dire qu'est-ce qu'on fait? Maman doit être en institution, papa, ceci, cela, il y a un traitement, il y a une prise en charge à faire. Du coup, on trouve des personnes relais. Vos parents ont peut-être des frères et sœurs aussi. Là où c'est toxique, c'est qu'on fait croire à l'autre que c'est le seul sauveur. On le positionne en sauveur de son parent, ce qui est faux. Oui.
Je dis pas du tout ça pour vous penser et tout, vous avez peut-être juste dit ça comme ça, mais j'aimerais savoir ce que vous voulez dire quand vous dites que les loyautés retombent plus sur les filles.
Les loyautés sont, je l'ai pas juste dit comme ça, parce que c'est, je constate ça, que les filles, peut-être parce qu'elles sont plus dans le soin, dans la prise en charge de l'autre, bah, ce fait, tous les milieux médicaux et paramédicaux, etc., tous les métiers d'aide, c'est beaucoup des métiers féminins. C'est une constatation. Ça n'a rien d'une quelque chose de. Je trouve que les filles prennent cher là-dessus. Non, mais c'est vrai, les filles prennent cher. Les filles, faut faire attention. Hein, c'est. Je vois, moi, j'ai une sœur, etc. Mais du coup, voilà, elle habite Paris comme maman, etc. Moi, à 87 ans, bon. Je lui dis, maintenant, moi, je suis ici. Mon frère, il habite l'Allemagne. Bon. Mais il se trouve qu'elle s'est mise à côté de maman. Bon, voilà. Bon. C'est marrant. Je lui dis, mais du tout, fais attention. Je ne sais pas comment on peut t'aider, mais est-ce qu'on peut t'aider d'une manière ou d'une autre? Je lui dis, pour toi aussi, tu as ta vie, tu es grand-mère, tu as tes enfants, tes petits-enfants. Bon. Pour pas que ça retombe sur toi, mais c'est vrai que la fille peut-être sent peut-être plus responsable, plus c'est une constatation, c'est pas c'est rien d'universel, hein, mais c'est plus une constatation. Donc la question des loyautés, donc la question de la parentification, hein, c'est on devient parent de ses parents, hein, une exigence dans le don qui est trop grand. En fait, c'est oui. Oui, avant, oui, on n'est pas marié, c'est vrai. Alors qu'on n'est pas, vous n'êtes pas marié à l'étape où vous êtes, c'est vrai. Du coup, la loyauté, on la doit à sa famille. Maintenant, si vous envisagez, c'est tout à fait juste parce que vous êtes en discernement. C'est le principe de la retraite. Donc, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est important de le dire. Non, mais c'est une question qui se pose de dire. Mais maintenant. C'est là où il faut aller dans le cas concret, de dire, mais est-ce que la décision que vous prenez, par exemple, on va prendre un autre exemple. Imaginons que tu décides d'acheter un appartement, là, à le moment même. Mais est-ce que c'est une décision de couple ou est-ce qu'une décision personnelle? Vous n'êtes pas marié. Donc, mais ça dépend, alors c'est délicat, parce que ça dépend à quelle échelle, disons, du processus où vous êtes. Dans la prise de décision, est-ce que vous sentez que vous allez plutôt vers le nous ou pas? C'est-à-dire que est-ce que vous pensez, parce que voilà, je sais pas, j'ai pas trop de réponse à ça. Mais en tout cas, quelque décision qui sera prise, ce sera pas sans impact sur le couple. Ah, il faut réfléchir à deux. Alors, soit y réfléchir seul, mais en tout cas, ce ne sera pas sans contact, sans impact sur le couple. Mais ça peut être aussi un lieu de discernement, si l'autre n'adhère pas à la décision qu'on a prise. Parce que c'est trop prenant, parce que c'est trop impliquant, parce que c'est un... Ben, peut-être qu'on n'a pas à faire route commune, j'en sais rien. Ça peut être intéressant, parce que ça peut être un critère de discernement, justement. Mais non, c'est progressivement que vous passez du je au nous, mais où est-ce que vous en êtes dans ce nous? Est-ce que vous n'êtes pas, sans être marié, mais vous vous projetez ensemble, etc., vous êtes déjà dans un nous qui est plus avancé. Voilà, vous dites maintenant je ne vais pas prendre de décision sans consulter l'autre, même si je ne suis pas marié à l'instant T. C'est pas 0 ou 1, je pense que c'est pas juste ben, je suis marié, donc c'est en amont aussi, je pense, important de consulter des grandes décisions comme ça, si vous pensez vers route commune. Maintenant, si vous avez l'intime conviction qu'il faut prendre cette décision envers un parent, envers ou une décision financière, d'investissement, de quoi qu'est-ce. Voilà, prenez-la, puis vous verrez bien ce qui se passe à côté. Hein. Si ça commence à réagir à côté, si ça réagit bien, si ça réagit mal, si c'est. Voilà, c'est. Maintenant, si c'est pour prendre des décisions tout seul, c'est vrai que c'est pas peine de se marier, quoi. C'est sûr que le principe du mariage, c'est quand même prendre les décisions en se consultant à un minimum. Hein. Donc, voilà. Donc, mais oui, ça, je pense que c'est important, cette question-là. Ensuite. Autre loyauté toxique, c'est des loyautés qui en fait, s'appuient sur des comparaisons. Un tel a fait ça pour moi, te dira tes grands-parents ou ta grand-mère, hein, et on compare comme ça les enfants entre eux, ou on compare les frères et sœurs. On laisse entendre que quelqu'un dans la fratrie est plus dévoué pour son parent que tu ne peux l'être. Voilà, donc ça c'est les loyautés toxiques. La question des conflits de loyauté, parce qu'en fait c'est de ça dont il s'agit, le cœur c'est ça. Pas de loyauté sans conflit. Car la loyauté consiste à donner de façon préférentielle à quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre. Le temps que vous donnerez à un parent, ben vous ne le donnerez pas à l'autre parent. Le temps que vous donnez à un frère, vous ne donnerez pas à l'autre frère. Donc forcément, il y a quelque chose de privilégié. Et du coup, il y a une forme de. Souvent, on est pris comme entre deux groupes qui attendent de nous des retours. Ça peut être viré aussi en amitié. Et, hein, des amis, ah ben oui, depuis que tu es en couple, on ne te voit plus, etc. Qui attendent, qui te demandent des choses. Mais est-ce que c'est légitime de leur redonner? Ou est-ce que c'est leur dire, bah, écoutez, maintenant que je construis un couple, etc., j'ai besoin de plus de temps, je mets, bah, peut-être me retirer, vous allez me voir moins, vous allez, voilà, parce que vous priorisez la construction de votre couple par rapport aux amitiés que vous aviez jusque-là. Donc forcément, qui dit loyauté, dit prioriser une personne par rapport à l'autre. Donc les rentrer dans une forme de conflit de loyauté, c'est ce qui a fait. La trame de toutes les tragédies classiques, hein, qui sont fondées sur cette question. Antigone, par exemple, de Sophocle, hein, veut donner une sépulture à son frère au défi de son oncle qui s'y oppose, hein, car c'est contraire aux lois de la cité. Ou le roi Lear de Shakespeare, vous vous rappelez de ça, ou Cordélia, qui aime le roi de France plus que son père. Son père lui dit, écoute, je donnerai. Il a quatre filles, si j'ai bonne mémoire, et qu'il a un faible pour Cordélia. Il dit à Cordélia, si tu m'aimes plus que les autres, que tes autres sœurs, eh bien, je te donnerai là mon royaume, etc. Et ils disent, non, mon cœur est promis au roi de France, etc. Donc, toutes les tragédies sont souvent des conflits de loyauté. C'est rêvé, par exemple, dans le cinéma indien, dans le cinéma japonais, le cinéma indien, parce que c'est les parents qui choisissent. Les parents choisissent ça, mais moi, je suis amoureux d'un tel. Et alors, tout Bollywood, c'est ça. C'est pratiquement 95% de Bollywood. Il y en a un qui a choisi. Vous savez, de même, dans le cinéma asiatique ou dans le cinéma japonais aussi, on retrouve très fort, parce qu'il y a une dimension du corps qui est beaucoup plus forte. Alors que dans nos sociétés occidentales, c'est la dimension de l'individu qui est plus forte. Donc, il y a moins cette dimension de conflit de loyauté, comme on peut pouvoir le voir dans d'autres cultures. Hein. Mais je me souviens comme ça avoir accompagné un couple. Lui était d'origine vietnamienne, sa maman, est, je pense, était vietnamienne, mais lui est né en France, un garçon très brillant. Et, mais sa maman seule avait travaillé, tenait un petit truc vietnamien, voilà, voilà un traiteur asiatique, se levait très tôt le matin pour payer les études de son fils, etc. Bon. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe si un jour ta mère et ta femme ne sont pas d'accord? À qui tu donneras la priorité? Et lui de répondre, puisse ce jour ne jamais arriver. Je lui dis, tu viens, t'as entendu? C'est que c'est pas toi qui auras la priorité. Je lui dis à la fille, t'as entendu? Ça c'est une, là parce que il y a un conflit de loyauté parce qu'il sent qu'il doit redonner à sa mère qui s'est levée tôt le matin, qui lui a payé les études, qui machin, patacoufin, etc. Ok, donc du coup, voilà, je trouve ça assez intéressant, cette question de conflit de loyauté. Hein, il est difficile de rembourser autrement qu'en donnant aux générations à venir, etc. Oui. Quelque part, le fait de rembourser la dette, comment est-ce qu'on rembourse la dette de l'amour, au fond, et de la vie, si ce n'est en redonnant la vie et en redonnant l'amour, c'est-à-dire en poursuivant le cycle des générations. Et c'est vrai que, par exemple, dans une famille, un couple sans enfant sera dans une situation bien plus difficile qu'un couple avec enfant. Un célibataire dans une famille, sera beaucoup plus une situation plus difficile que quelqu'un qui est marié. On prendra, par exemple, on organise les vacances, les parents organisent les vacances, posent la question au couple avec enfant, ensuite au couple et à la fin au célibataire. Parce que voilà, c'est parce que à travers le couple qui a des enfants, c'est la famille continuée. Et qu'est-ce que souhaite toute famille si ce n'est de continuer? Toute famille veut continuer. Pardon?
C'est aussi pragmatique.
Oui, c'est pragmatique, mais
Non,
oui, mais c'est non, mais c'est intéressant.
Ce qui
C'est
donne alors aux enfants, enfin, ceux qui ont des enfants, c'est parce qu'ils sont plus nombreux.
oui, parce qu'ils sont plus. Oui, d'accord, mais on pourrait dire c'est pragmatique de donner au célibataire parce que justement pour lui dire qu'il a aussi de l'importance à nos yeux et qu'on le fait passer d'abord en premier et que voilà. Mais du coup, c'est toujours ceux qui ont des enfants qui passent en premier dans l'agenda. Non, mais mets-toi à la place du célibataire dans la fratrie. Surtout, déjà, se voit comme en échec affectif parce qu'elle n'est pas en couple, mais, etc. Du coup, parfois, elle décuplera ses loyautés pour pouvoir avoir de la, une certaine, aux yeux de ses parents, exister dans le regard des parents, quoi. Hein, elle répondra peut-être trop, voilà, aux sollicitations, aux demandes. Oui, alors, bon, c'est juste, c'est intéressant d'analyser les choses comme ça. Donc, les conflits interrogent notre culpabilité, ça je vous l'ai dit. En sortir demande un travail. Savoir dire non, hein, c'est savoir dire je. Vous aurez à décevoir vos parents. Non pas comme une crise d'ado, un ado qui voilà, non, non. Parce que vous aurez à vous construire. Il y aura des choses où ils attendront des choses de vous auxquelles vous ne pourrez pas répondre. Parce que vous êtes en couple et que le fait de répondre emmènerait le couple dans telle direction ou dans telle autre, et l'autre n'est pas d'accord avec cette direction, et vous voulez faire direction commune, c'est le principe du couple. Quitte ton père et ta mère, c'est très fort, dans le langage biblique, le mot quitter, c'est vraiment laisse-les partir. Lâche-les. Ils sont peut-être plus solides que tu ne le penses. Et vous rappelez Abraham, hein, dans la Bible, hein, quitte ton pays, la parenté de ton père, et va vers le pays que je t'indiquerai. Va vers aussi, c'est ce qui se traduit aussi, va vers toi-même. Pour aller vers vous-même comme couple et vous-même comme personne, vous aurez à faire un tri dans ces loyautés. Et parfois à décevoir. peut-être le conjoint que vous avez choisi déçoit. J'en sais rien. Ça peut arriver que vous, l'autre, parce qu'on attendait quelqu'un d'autre, un autre style de personne, un autre style de fille, un autre style de garçon, etc. Et que vous sentez dans le regard de vos parents que bah, en fait, le conjoint bah, n'est pas tout à fait raccord avec la projection. Plus on aime quelqu'un, plus on se projette sur l'autre. Forcément. Parce que plus on attend de l'autre. Et on attend de l'autre pour ce qui nous paraît être son bien. C'est assez évident, c'est l'expérience commune. Donc, donc l'important, donc ça, sortir demande un travail donc, sur nous. Hein, savoir dire non, c'est savoir dire je. Hein, et privilégier une loyauté plutôt qu'une autre. Et par exemple, à cette fille qui dit « je donnerai la moitié de mon salaire pour que mon père ne coule pas », est-ce qu'on peut faire rue commune avec une fille comme ça, quoi, qui est une fille super, par ailleurs? Je dis « mais t'as des choses à régler, ma belle. Hein. Tu peux pas être comme ça. » Parce que du coup, ça veut dire que nos enfants, si on veut les envoyer à l'école privée, on pourra pas parce que faut sauver le papa qui est à moitié en train de couler. Non, ça va pas être possible, ça. Mais voilà, ça, parfois c'est tellement fort que bon. Forcément, et en plus, j'allais dire, dans le mariage, les loyautés sont, j'allais dire, décuplées parce que par définition, le mariage c'est le lieu de la transmission. Hein, la transmission des gènes, la transmission de la vie, du patrimoine, de la culture, de la religion. Mais c'est intéressant de voir qu'en latin, tradere, qui veut dire transmettre, veut dire aussi trahir. C'est-à-dire que pour transmettre, il y a quelque chose à décevoir, auquel il ne faut pas répondre. Vous décevrez vos parents, vos amis, par les choix que vous poserez, à certains moments, pour privilégier votre couple. Ça pourra arriver. Parce qu'il n'y a pas d'égalité dans les loyautés. On ne peut pas répondre de la même manière à des personnes différentes, à des demandes différentes. Donc le conflit de loyauté, qui est quelque chose, j'allais dire, habituel dans les relations entre générations. Et plus on fait un choix éloigné des attentes des parents, plus il faut envoyer des signaux d'encouragement montrant notre reconnaissance pour l'amour reçu. Parce que, imaginons, moi j'ai accompagné comme ça des couples de religions différentes. J'ai participé à une bénigne union où lui était juif, elle est catholique, etc. Il dit jamais j'aurais pu penser d'être tombé amoureux d'un juif, etc. Mais pour moi, elle est très catholique, aristo, dans le scoutisme, etc., à fond, quoi. Et lui, pas du tout dans sa foi juive, rien du tout. Bon. Mais comment dire aux parents, le choix de mon conjoint n'est pas une désapprobation de votre éducation? Parce que le parent peut très bien penser ça, dire qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, hein, vous vous rappelez, le film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir tout ça? Je veux dire, mais c'est dingue, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'on a mal fait pour que notre fille choisisse quelqu'un d'une autre religion, alors qu'eux-mêmes sont hyper engagés dans la religion. Bénédicité, comme nous, là, à l'abbaye, mais à l'abbaye, c'est normal, mais dans les familles, tous les jours, matin, midi et soir, là, je dis, mais non, c'est vrai, ils y vont, là. Bon, voilà, c'est très bien, mais bon, donc du coup, c'est intéressant. Quand on fait des choix, je répète, des choix éloignés des attentes des parents, il faut envoyer des signaux d'encouragement montrant notre reconnaissance pour l'amour reçu. Ce n'est pas contre toi que je fais le choix de ce conjoint. Même si pour toi, c'est un conjoint improbable. Tu voulais un grand blond, je t'apporte un blond, un brun trapu. Voilà. Le conflit de loyauté n'a pas que des aspects négatifs. Ils nous permettent de dire non, donc de dire je, de dire qui l'on est. Mais aussi, on peut être injuste par des manques de loyauté. C'est-à-dire que il y a quelque chose aussi qui est dû aux parents. Honore ton père et ta mère. Et honorer, c'est intéressant dans la tradition juive, dans le mot juif, c'est donne du poids à la relation avec ton père et avec ta mère. Qu'on ne considère, on n'est jamais ex-fils ou ex-fille, quoi qu'ait fait le parent en question. Même s'il a démérité, même s'il a été en dessous de tout, même si, etc. Pour X, on n'est jamais ex-fils ou ex-fille. Donc donne du poids. Mais ça veut dire aussi, dans un autre sens, laisse-leur porter le poids de leurs propres décisions. C'est peut-être pas à toi de les porter. Honorer, c'est laisser aux parents le fait de porter le poids de leurs décisions et non pas de vouloir les soulager. Et à tel point, c'est très fort, c'est que dans la Bible, il est dit à un moment donné, celui qui veut soulager ses parents mérite la mort. Alors on dit, waouh, attention, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que celui qui veut rentrer dans une dimension de soulager, de prendre le poids que, au fond, à l'autre est dû, rentre dans une logique mortifère. Donc c'est intéressant de honorer, c'est donner du poids, c'est laisser le poids à l'autre de ses propres décisions. Et donc on peut parfois manquer de loyauté, tout simplement en étant injuste avec ses parents, en termes de temps, ne donnant pas assez de temps. Moi je me questionne toujours, est-ce que maman, elle ne sera pas éternelle, etc. Bon, est-ce que je lui donne assez? Je vais régulièrement à Paris, mais je ne vais pas toujours la visiter. Elle habite Paris, donc pas très loin. Bon, est-ce que je vais prendre des nouvelles? Est-ce que bon, sans qu'il y ait de demande de sa part, bon, elle appelle volontiers, mais elle veut surtout, elle s'excuse de me déranger. J'espère que je ne te dérange pas, etc. Bon, donc, mais est-ce que moi-même, je suis pas pas assez peut-être par rapport à certaines personnes? Par exemple, dans la question du temps, la répartition du temps par. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, mes amis, sur le rapport aux familles, sur cette question de loyauté qui, à mon avis, jamais abordée la dimension de couple et dans la dimension, et encore moins la préparation au mariage. Est-ce que ça vous a, est-ce que vous avez des questions, que ça vous, oui? Qu'on veut soulager. Qu'on veut soulager un poids, par exemple le poids des responsabilités, qu'on veut soulager un parent, je vais te retrouver la phrase, qu'on veut soulager un parent, honore ton père et ta mère, hop, hop, attends, je l'attends, attends, le verbe hébreu, je te lis, le verbe hébreu, kibed, signifie, c'est honorer ton père, signifie concrètement alourdir, rendre lourd, donner du poids. On peut entendre ici deux sens. Le premier serait d'accorder tout leur poids, toute leur importance à ceux qui nous ont transmis les dons essentiels de tout être humain venant au monde, c'est-à-dire ses parents. Se rappeler que la vie est un don et que donner de l'importance à ceux qui nous ont offert ce don. C'est honorer, voilà, c'est pratiquer la vertu de justice. Mais que chacun porte son poids ou qu'il refuse d'alléger le poids des parents. En hébreu, alléger, c'est aussi maudire. Le chapitre suivant de l'Exode dit clairement qui allège son père et sa mère sera voué à la mort. C'est-à-dire, celui qui veut porter la responsabilité des actes de ses parents rentre dans une logique mortifère. Il y a un poids qui c'est à eux de porter. C'est des décisions qu'ils ont prises dont les conséquences peut-être c'est à eux d'assumer ces conséquences. Et non pas de vouloir pallier et de vouloir prendre soi les conséquences des actes des parents. Je ne sais pas si c'est plus clair.
Si c'est plus clair, est-ce que vous auriez vu la référence biblique?
C'est la différence Le livre, c'est la Bible, là, mais si tu as raison, là. Qui allège son père et sa mère, c'est Exode 21, 17. Qui allège son père et sa mère sera voué à la mort. Et honore ton père et ta mère afin d'avoir une longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu, c'est Exode 20, 12. C'est les commandements. C'est le quatrième commandement du Décalogue, le seul à avoir une promesse qui lui soit attachée. Intéressant ça aussi. D'autres questions, mes amis, sur... Oui.
Est-ce qu'il faut se forcer à une certaine équité entre les deux parents de chaque côté pour répartir, ou est-ce que faut vraiment, enfin, indépendamment des côtés, juger autant, enfin, au niveau dans les vacances, des choses comme ça, ou pas du tout?
Est-ce que l'équité à avoir là-dedans, est-ce qu'il faut avoir une équité entre les deux parents, ce qu'on donne aux deux parents, etc. J'imagine que c'est encore plus vrai, je ne sais pas si c'est de ça dont tu parles, mais qu'on a les parents séparés, par exemple. La question des Noëls est toujours compliquée. Est-ce qu'on donne à un parent, est-ce qu'on donne... Je sais pas, vraiment, je suis perplexe là-dessus. Je dirais pas spontanément oui. Par exemple. Parce que l'égalité n'est pas forcément l'équité. Et donc, du coup, on peut être... si on donne, par exemple, la même note à tous les élèves d'une classe, on peut être parfaitement injuste. Donc, l'égalité n'est pas l'équité, n'est pas la justice. Maintenant, est-ce qu'il y a un parent qui a plus besoin ? Du coup, je pense de demander conseil, demander si vous êtes avec votre conjoint, etc. Tu vois les choses comment ? Est-ce que c'est un parent qui fait jouer la corde sensible, culpabilise, ma chérie, tu vois ta soeur ce qu'elle fait pour moi, machin, tac, 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 et l'air de dire, toi, t'en fais pas assez. Si derrière ça, il y a une culpabilité, là, moi, il y a un warning qui s'allume.
Et s'il n'y a pas de culpabilité, c'est plus une certaine rigueur.
De toute façon, on donne jamais pareil. On donne jamais pareil, même si c'est le même temps. Parce qu'on est face à l'autre, c'est deux personnes différentes, forcément, on ne sera pas pareil. Ce qu'on livrera, ce ne sera pas pareil. Et ça ne me choque pas. On choisit aussi dans ce qu'on veut livrer dans une relation à quelqu'un. Deux personnes différentes, un père à une mère, on ne dit pas les mêmes choses, selon les circonstances, selon son propre état d'humeur, etc. Donc c'est jamais pareil. Oui.
C'est pas vrai pour tout le monde, mais je pense que oui. C'est vrai pour une bonne partie. Et finalement, ça, c'est des choix que nos parents ont fait
On est plus proche de la famille de son père ou de la famille de sa mère. Alors, soit ça peut être un choix que les parents ont fait, soit on s'est senti une connivence plus grande, soit on a passé plus de temps aussi. Je pense que c'est beaucoup, enfants, c'est les Noël, les temps de famille, de vacances, etc. Est-ce que c'est plus ça fait les grands-parents paternels, les grands-parents maternels? Est-ce qu'il y a des grands-parents qui ne souhaitaient pas votre venue, par exemple, vous sentiez peut-être d'autres chez qui, au contraire, vous avez des grands-parents gâteaux, voilà. Ce qui fait que...
Finalement, on subit le choix
de... Forcément, on subit le choix. Ils ont fait un choix de dire, on est plus allé. Peut-être que le mariage a été plus encouragé par la famille paternelle. Donc forcément, on va plutôt vers ceux qui nous donnent des caresses que des coups de pied, quoi. Spontanément. Donc du coup, maintenant, c'est intéressant cette question. Est-ce que c'est pour rétablir, je veux donner aux grands-parents, par exemple, la même chose, est-ce que c'est pour rétablir quelque chose qui m'est paru d'une injustice de la part de mes propres parents, et est-ce que je me sens la charge de vouloir rétablir ça? Donc je donne absolument aux deux pareils, mais sachant qu'on ne donne jamais aux deux pareils. Voilà, en tout cas, cette question de loyauté, je trouve que c'est une question qui m'a beaucoup marqué. J'en parle dans le bouquin beaucoup, parce que je trouve que c'est quelque chose dont on parle, qu'on évoque très peu. Oui.
Est-ce que vous avez des cas de divorce liés à des conflits de loyauté, justement?
Oui. Oui, bien sûr. Ou c'est tellement. Par exemple, quand il y a des biens, des enjeux au niveau financier de chaque côté. De divorce, oui. Et que ça met dans une situation financière. Voilà, le papa te dit bah, tu as une maison de famille. Toi qui reprends la maison de famille, la famille, la maison de famille, imaginons un truc comme ça. Ouais, tu as des hectares de toit, tu as des machins. Ouais, et ça te met dans une telle situation de stress, d'angoisse, de machin, etc. Que. Voilà, et l'autre, par loyauté, a vu son père lui se sacrifier, son grand-père avant lui, etc., pour cette fameuse maison, etc. Bon, par exemple, bon, et du coup, ça met le couple en tension, enfin, pas au divorce, mais en tension, certainement. Et d'où l'importance, par exemple, quand il y a des questions de loyauté, est-ce que je peux. D'où vous discernez en couple, et toi, tu le vois comment? Il dit, ben non, non, ça, cette maison-là, elle nous dépasse complètement. Par exemple, imaginons qu'il y a des maisons de famille, bon, certains ont des maisons de famille, bon, ou telle chose à faire, ou tel rituel familial. Et ben non, ça nous. On dira non. Mes amis, je vous sens perplexe. Voilà, je vous laisse méditer. Donc, bon, les questions, elles viennent toutes seules. Hein. Quelles sont les loyautés? Où est-ce, comment vous vous situez chacun? Est-ce qu'il y a des loyautés toxiques?